Alors, est-ce que ça marche? Ouais, super. Ça, je vais le poser, je sais pas où. Je vais le poser là. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. À ceux que j'ai pas pu encore saluer, je vous salue. À ceux qui sont en ligne, je vous salue aussi. Je suis très impressionné d'être parmi vous, très honoré d'être parmi vous. C'est pour moi un immense, vraiment, honneur. Je me disais, vous êtes descendu bien bas pour demander à l'armée du salut de venir prêcher chez vous. Ça doit être les effets du virus. Mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est un immense honneur, vraiment, d'être là. On m'a demandé de présenter quelques mots sur moi, d'une part. Alors, comme vous pouvez le voir, on dit que l'habit fait le moine. Pas totalement faux ici, dans ce cas-là. Je suis officier de l'armée du salut à Nîmes. Je suis responsable du groupe de l'armée du salut à Nîmes, qui est situé en face du lycée Daudet, à côté des arènes. Voilà pour ceux qui voient un petit peu. Et voilà, j'ai 38 ans, la dernière fois que j'ai compté. Je suis marié depuis 13 ans, avec ma femme évidemment. Et j'ai trois enfants, j'ai deux petits garçons de 6 et 7 ans, Élie et Jérôme, et je viens tout juste depuis 3 semaines d'avoir une petite fille, Clarisse. Voilà. Alors, merci, merci. Mais j'ai pas fait grand-chose hein, pour l'instant. mais alors, cette nuit, elle était un peu malade. Donc voilà, ça a été beaucoup une nuit de prière intense pour ce matin. Et en tout cas, voilà, je suis ravi d'être avec vous. Peut-être plus personnellement, j'ai pas grand-chose à vous raconter de ma vie qui est très intéressant. J'ai pas une vie passionnante. Merci beaucoup. J'ai pas une vie passionnante. J'étais ingénieur. J'étais ingénieur dans un cabinet d'avocats pendant quelques années. C'était mon travail. Je gagnais plutôt bien ma vie. Et puis voilà, un jour, le Seigneur m'a dit, voilà, tu vas quitter ton travail et je voudrais que tu travailles à temps plein pour moi dans l'armée du salut. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est parce que, en fait, peut-être la chose la plus intéressante qui est arrivée dans ma vie, c'est que j'ai été en formation. Donc l'armée du salut m'a formé ou m'a déformé selon comment on voit les choses, mais. Et j'étais entre les 2 ans de formation et on a fait une retraite spirituelle avec ma femme. On n'avait pas encore d'enfant et je suis arrivé dans un monastère en Suisse pour faire une retraite spirituelle. Et le dernier soir, j'arrivais pas à dormir. Et alors, je suis allé dans la chapelle qui était tout le temps ouverte, qui était dans une vieille grange, c'était absolument magnifique. Et je suis allé dans cette chapelle et j'ai dit au Seigneur, tu sais, Seigneur, j'ai tout donné. J'ai tout donné, tu m'as demandé de donner ma vie professionnelle et je te l'ai offert, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et ce que j'ai ressenti là, c'est que en fait, tout ce que je faisais, ça ne servait à rien parce qu'au fond de moi, j'étais mort. Au fond de moi, j'étais mort spirituellement. Et j'ai dit au Seigneur, je ne quitterai pas cette salle tant que tu ne m'auras pas béni. Un peu, vous savez, comme Jacob. Et alors, je me suis mis à plat ventre et j'ai prié. Prié, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, c'était hors du temps. Mais je me suis relevé et j'ai eu une vie nouvelle en Christ. En fait, je me suis relevé, il y avait une peinture sur le mur. C'est une peinture de Jésus. Et d'un coup, j'ai pris conscience de quelque chose que je connaissais avec ma tête, mais que je n'avais jamais reçu dans mon cœur. Quelque part, Jésus était passé de ma tête et il est entré dans mon cœur. Et je me suis relevé avec une vie nouvelle en Christ. Je suis retourné voir ma communauté et j'ai dit tout ce que je vous prêchais le dimanche matin, en fait, je n'avais pas compris. Alors, on va tout reprendre à zéro. Et en tout cas, je ne vous connais pas, enfin, j'en connais un peu certains, mais vraiment, si vous n'avez pas cette bénédiction, c'est mon souhait le plus grand pour vous aujourd'hui. Voilà, alors peut-être certains ne connaissent pas trop l'armée du salut. Souvent, on connaît un peu les œuvres sociales de l'armée du salut qui sont grandes, très grandes, trop grandes à mon goût, en tout cas en France. Mais il se trouve que c'est aussi une communauté chrétienne, c'est aussi une œuvre chrétienne d'évangélisation. Et voilà, elle est présente dans maintenant 132 pays dans le monde. Et voilà, elle œuvre dans le monde. Je ne sais pas très bien. Comment la présenter autrement qu'en cette phrase, c'est une armée au service du Christ. Voilà. Et comme toute armée, on a deux actions. On a une action défensive, parce que les armées, des fois, elles œuvrent dans des populations qui sont touchées. Et donc, comme il y a des gens qui sont touchés par la misère, et que la misère, elle ne regarde pas la religion, elle ne regarde rien du tout, elle touche, eh ben nous, on touche sans discrimination, mais aussi, on attaque. Et le problème de l'être humain, c'est son cœur. Et donc, on essaye aussi d'attaquer à la racine du mal, comme vous le faites aussi, et comme chacun des enfants de Dieu le fait. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre voilà, après le culte. Je voudrais juste commencer, avant qu'on ouvre les Écritures, par vous raconter une vision qu'a eue un ancien pasteur. C'est pour répondre à l'accueil qui m'a été fait ce matin de me sentir chez moi. Et je me suis senti chez moi. Un peu plus grand que chez moi, mais je me suis senti chez moi. Et ce vieux pasteur, un jour, a eu une vision et il s'est retrouvé devant les portes de l'enfer. Alors, il toque et il dit... Alors, il y a une espèce de démon qui dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Et il dit « Est-ce qu'il y a beaucoup de catholiques en enfer ?»« Ouh, il y a beaucoup de catholiques en enfer. »« Est-ce qu'il y a beaucoup de protestants en enfer ?»« Ouh, il y a beaucoup de protestants en enfer. » Est-ce qu'il y a beaucoup d'évangéliques en enfer? Ouf, il y a beaucoup d'évangéliques en enfer. Est-ce qu'il y a des gens de l'armée du salut? Ouf, il y a des gens de l'armée du salut en enfer. Alors ce pasteur est troublé, absolument troublé, et dans la vision d'après, il arrive au paradis. Et il toque et il y a un ange qui lui répond et lui dit « Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir s'il y a des catholiques au paradis. » Il dit « Non, pas de catholiques. » « Est-ce qu'il y a des protestants? Pas de protestants. » Alors là, il est décontenancé. Des évangéliques? Aucun évangélique. Des salutistes, de l'armée du salut quand même, je ne sais pas. L'assemblée chrétienne de Marguerite quand même, si. Non. Alors le pasteur est décontenancé. Mais qu'est-ce qu'il y a au paradis alors? Et l'ange lui répond, tout ce que vous avez cité, je ne connais pas. Ce que nous avons au paradis, c'est des enfants de Dieu. Mes chers amis, si je me sens chez moi ici, c'est que c'est la maison de mon Père. Et que l'Église de Jésus-Christ n'a que faire nos étiquettes. Et qu'elle est simplement composée des gens qui vivent en Christ, qu'ils soient vivants ou qu'ils appartiennent déjà au Seigneur maintenant. Et nous sommes tous sœurs et frères en Christ. Nous partageons tous le même esprit. Et c'est pour moi une joie que d'être là parmi vous. Fini le quart d'heure émotion. On va arriver au texte biblique. Je vous invite à ouvrir ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce matin. Et je voudrais vous inviter dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Et je voudrais vous citer, ben, vous prendre avec vous le passage qui commence au verset 33 jusqu'au verset 48 et qui va prendre juste après l'épisode, enfin la fin de l'épisode des disciples d'Emmaüs, que vous connaissez évidemment très bien, je pense. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est des disciples qui sont sur le chemin qui va à Emmaüs et ils rencontrent Jésus. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils ont toute une discussion, ils parlent des Écritures avec Jésus et à la fin, à la fraction du pain, eh bien, ils reconnaissent Jésus, mais Jésus disparaît. Voilà. Et alors donc, je vais prendre au verset 31. Pardon. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, ils le reconnurent, reconnurent Jésus. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en cours, ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait le sens des Écritures? Ils se levèrent à ce moment même. Et ils retournèrent à Jérusalem et retrouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux. Et ils leur dirent, le Seigneur s'est réellement réveillé, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Comme ils disaient cela, lui-même, donc Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes vous viennent-ils? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi, regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical, que le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur Dieu, nous voici ce matin, ici présents ou par internet, et Seigneur, notre vœu le plus cher ce matin, c'est que ton esprit vienne nous visiter. Parce que ton esprit, Seigneur, doit nous ouvrir le sens des Écritures. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, Seigneur, ouvrir les Écritures. Mais ton esprit, Seigneur, ton esprit peut nous ouvrir l'intelligence, peut faire brûler en nous tes paroles, peut les rendre vivantes, peut nous transformer. Et Seigneur, nous demandons que ces lieux soient visités ce matin. Par ta présence, par ton esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Reste encore avec nous pour les temps qui sont là et qui restent encore jusqu'à ton retour. Sois avec nous, Seigneur. Au nom puissant de ta résurrection, je prie. Amen. Je voudrais commencer par un élément, une question qui peut sembler anecdotique. Jésus apparaît aux disciples et ils ont peur. Et je voudrais me poser la question avec vous ce matin, pourquoi les disciples ont peur? Et le texte nous dit, ils ont peur parce qu'ils pensent que c'est un esprit, ils pensent que c'est un fantôme. Et peut-être que nous aussi, nous aurions eu peur. Et ça nous pose la question, pourquoi avons-nous peur dans la culture populaire? Pourquoi on a peur des esprits et des fantômes? Pourquoi? Pourquoi ça nous fait si peur que ça, quand on y pense? Bon, vous savez, aujourd'hui, de nos jours, les esprits, c'est plus trop à la mode. Alors, vous allez me dire, mais si, ça existe, je connais mon ami qui fait du spiritisme ou je ne sais pas quoi, ou surtout les ados, pour se donner un petit peu de chair de poule. Mais savez-vous, le spiritisme de nos jours, c'est quand même plus trop à la mode. Ça l'était au 19e siècle, alors ça pullulait et les grandes soirées de la bourgeoisie parisienne pullulaient dans le spiritisme, comme aujourd'hui les dîners clandestins. Il y avait beaucoup, c'était très 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 à la mode. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus à la mode dans la culture populaire, et vous le voyez dans les films, c'est le grand truc, c'est les zombies. Hein, les revenants, les morts vivants, alors ça, vous avez ça dans les films, beaucoup, par exemple la série The Walking Dead, pour ceux qui connaissent un peu, ça traite de ça pendant plein de saisons, des zombies, c'est hyper à la mode, beaucoup plus que les fantômes aujourd'hui. Et vous savez, le cinéma, c'est pas juste du cinéma. Le cinéma, ça raconte beaucoup de nos peurs, en fait. C'est une façon de mettre un peu en scène ce qui nous interroge. Et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de regarder en fait ce que nos contemporains regardent, parce que ça leur parle. Si les gens traitent des zombies, ce n'est pas juste parce que c'est des zombies, c'est parce que ça parle aux gens. Et ça parle de leur peur de la mort. Ça parle de leur peur non seulement de la mort, mais, et je vais y venir, des revenants, de ceux qui reviennent de la mort. Et évidemment, c'est lié au texte d'aujourd'hui. Parce que les zombies, les morts vivants, comme les esprits, les fantômes, sont des cas de résurrection. C'est des cas de résurrection, ils sont morts et ils reviennent. Mais pour le plus grand malheur des vivants, hein, la plupart du temps en tout cas. La plupart du temps, c'est pour le plus grand malheur des vivants. Et on met en scène dans les films ces cas de revenants pour un petit peu essayer d'initier des réflexions sur la vie et la mort. Et pourquoi on a peur des revenants? Pourquoi on a peur des zombies? Pourquoi ça nous fait peur les esprits, les fantômes? C'est parce que dans la culture populaire, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on revienne de la mort. Et en général, ça se passe comme ça, il y a la vie, il y a la mort, et on va de la vie à la mort dans ce sens-là. On n'est pas censé revenir, vous voyez, de la mort. Et si les morts reviennent, c'est qu'il y a un problème. Et très souvent, d'ailleurs, dans les quatre fantômes, dans les films, c'est quand il y a un esprit qui reste encore là, c'est qu'il y a un problème à régler avant qu'il s'évanouisse, je ne sais pas, dans le film. Et donc, ça crée une espèce de perturbation dans la force, si vous voulez. Il y a un problème. Il y a un problème si les revenants reviennent. Pourquoi ? Parce que très souvent, eh bien, nous voyons la mort, une vision païenne de la mort, comme une espèce de grand nirvana dans lequel on s'évanouirait, vous savez, dans lequel, alors après, selon un petit peu les traditions, ah mais oui, mais en fait, il vit encore dans ton cœur, ou alors oui, il te regarde du ciel, les petites étoiles, etc. Ça, vous savez, dans le Roi Lion, voilà, il te regarde du ciel, etc. Mais une espèce de grand nirvana dans lequel on serait censé disparaître. Et donc, ce grand repos que nous attendons, et parfois, on connaît des gens qui sont tellement fatigués de la vie, fatigués de ce qu'ils vivent, ou tellement acculés par les problèmes, ou par la souffrance, qu'ils veulent arrêter, qu'ils veulent que ça s'arrête, et qu'ils veulent rejoindre la mort pour rejoindre cette espèce de grand repos que l'on voit comme étant la mort. D'où le fait que quand on est en train d'annoncer qu'on va revenir de la mort, ça n'envoie pas du rêve en tant que tel. On n'est pas censé revenir de ce grand repos. Et ça fait peur à nos contemporains de se dire que la mort n'est pas forcément un grand repos et qu'on va pouvoir peut-être même revenir de la mort. Jésus voit leurs doutes, il voit leurs troubles et dit « Mais pourquoi êtes-vous troublés ? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi, regardez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. » Aujourd'hui, il dirait, regardez, je ne suis pas un zombie, hein, j'ai un esprit, je peux parler. Oui, c'est bien moi, parce que Jésus a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche entre la mort et la vie. Il a ouvert une brèche dans ce qui était impossible et même dans nos plus grandes peurs. Et il dit aux disciples, regardez, regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez que c'est bien moi. Ou, et c'est très intéressant dans le texte, il dit, regardez que je suis. Et ce mot « je suis », pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, est un mot très intéressant, c'est une expression « je suis » et qui renvoie à la révélation de Dieu quand il est auprès de Moïse, quand il dit « Je suis qui je suis ». Et c'est récupéré par Jésus quand il fait ses annonces. « Je suis le bon berger, je suis la vigne, je suis la porte, etc. etc. » Et c'est très intéressant qu'il dit « Regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez que je suis. » Parce que tout simplement, ses mains et ses pieds sur lesquels il y a la marque de la crucifixion, sont un moment de vérité pour l'être humain. C'est un moment de vérité pour l'être humain. C'est celui qui montre que nous l'avons crucifié. Comme le dit l'Évangile selon Jean, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La croix est le symbole de la vérité de ce qu'il y a au fond de l'être humain. Notre société est persuadée que ce qu'il y a au fond de l'être humain, c'est la bonté. C'est la plus grande arnaque de tous les temps. Et c'est ce que montre la croix. On s'y est tous mis, juifs, non-juifs, autorité politique, autorité religieuse, la foule qui l'acclamait comme un roi 3 jours avant, les disciples, t'inquiète pas, jusqu'à la mort, on sera avec toi, tu parles. Il n'y avait plus personne, les copains, ils n'étaient plus là à la croix. Tout le monde s'y est mis pour rejeter Dieu, pour rejeter sa parole faite chair, pour l'humilier, pour le déshonorer, parce que la croix, ce n'était pas n'importe quoi comme mort. C'était une mort humiliante. Dieu vient parmi nous Et nous l'avons rejeté, nous l'avons crucifié, nous l'avons humilié. Ça, c'est la vérité de ce qu'il y a en nous, au plus profond d'entre nous. Nous sommes ténèbres au fond de nous, depuis la chute, depuis que nous avons rejeté les dons de Dieu. Que nous cachons derrière ce que nous faisons du bien, etc. Hein, on essaie de mettre une belle couche de vernis. Et la croix vient faire éclater ça. Voilà ce que vous êtes au fond de vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le rejet de l'être humain n'est pas le dernier mot de Dieu. Et Dieu vient prendre ce rejet. Et Jésus vient au plus profond d'entre nous pour nous libérer de ça. Ainsi, c'est très intéressant, parce que quand il montre ses marques, il met à jour ce qu'il y a au plus profond d'entre nous. Et ainsi, peut-être que Jésus pose la question, mais vous avez peur des revenants ? Mais peut-être que ceux qui sont les zombies et les fantômes, c'est peut-être vous ici. Peut-être que les walking dead, les morts qui marchent, c'est peut-être vous. Regardez, vous vous croyez vivant ? Vous vous croyez vivant ? Mais vous rejetez Dieu et sa parole, vous rejetez celui qui est la source de toute vie. C'est vous les morts vivants. C'est vous les morts vivants. Voilà ce que dit Jésus en montrant ses plaies. Nous sommes marqués par la mort. Profondément, radicalement en nous, nous sommes marqués par la mort. La peur de la mort, la peur de la souffrance, cela influe toutes nos décisions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons influe de cette peur de la mort. Nous sommes captifs du royaume des morts, d'où le fait que nous avons extrêmement peur des revenants. Nous sommes captifs, ils sont comme un miroir qui nous rappelle qui nous sommes profondément en nous. Et la résurrection de Jésus vient ici, comme au milieu des disciples, pour dire « Éveille-toi, toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu restes captif du royaume des morts. Relève-toi d'entre les morts, parce que je suis la vie des morts. Je viens te donner la vie à toi qui dors, à toi qui es mort. Je viens t'offrir la vie. » La résurrection de Jésus est comme une brèche qui vient s'ouvrir dans nos tombeaux. Il vient faire rouler la pierre pour nous appeler à sortir. Tu es comme un tombeau blanchi. Tu viens là te blanchir, te d'orner de ce que tu fais, de ce que tu as, de ce que tu sais. Mais au fond de toi, c'est rempli d'ossements et d'impureté parce que tu pues la mort au fond de toi. Et c'est ça que je viens chercher, c'est ça que je viens titiller, c'est ça dont je veux avoir la victoire. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est qu'illusion. Viens regarder la mort en face, parce que c'est la vie que je t'offre. Si tu viens là, bien déguisé, comme un costume du dimanche matin, je n'en ai que faire, parce que je viens appeler les morts, je viens appeler ceux qui sont malades pour les relever. D'où le fait qu'il montre ses marques. Regardez ce que vous m'avez fait. Pas pour nous accabler, mais pour avoir la victoire en nous, pour nous offrir la victoire en nous. C'est une puissance de vie que Jésus veut mettre dans nos vies, une puissance de vie qui veut jaillir, faire éclater ce que nous sommes. Tout simplement, ces marques sont la transfiguration. Ces marques qui rappelaient ce que nous sommes se transfigurent en eau jaillissante pour notre salut. C'est rien moins que ça, la résurrection. Et nous attendons ce jour béni, mes amis, où le Seigneur reviendra et où nous pourrons le voir face à face et où toute la création sera transfigurée, délivrée du péché, où nous serons enfin ce pour quoi nous avons été créés. C'est ça la résurrection. Ce n'est pas une histoire de fantômes ou de zombies pour nous faire peur. C'est une histoire d'accomplissement. Enfin, nous serons à la maison. Nous serons dans un monde où nous serons enfin, nous nous sentirons chez nous, pas comme maintenant où nous nous sentons étrangers dans ce monde, mais nous serons enfin dans un monde où la justice habitera. Et où nous serons avec notre Père. Et nous l'attendons de toutes nos tripes, n'est-ce pas ? Et nous sommes appelés à vivre les prémices déjà en nous,
entre nous, dans nos relations, entre sœurs et frères, mais aussi avec les gens de ce monde. Nous sommes appelés à vivre cette résurrection, cette transformation. Nous savons et nous vivons, sachant que rien ne peut nous arriver et que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, nous nous acheminons vers la gloire. Nous n'avons pas peur de la mort, nous la regardons comme une amie terrassée, comme un passage. Nous nous acheminons, quoi qu'il arrive, vers la gloire. C'est notre espérance, n'est-ce pas ? Christ veut être victorieux dans nos vies. Et ça doit transparaître, ça doit rayonner en nous. Cette vie du Christ en nous doit brûler jour en jour et doit transformer ce que nous sommes. Nous ne devons pas nous laisser berner par l'adversaire qui veut étouffer ça comme mettre un couvercle sur cette vie du Christ. Nous devons la laisser rayonner. Arrêtez de laisser l'adversaire nous persuader qu'on doit se défendre les uns des autres. On a toujours peur de souffrir par les autres. Mais nous nous acheminons vers la gloire. Nous n'avons pas peur de souffrir. Nous sommes là pour rayonner de l'amour du Christ. Arrêtons de nous cacher les uns les autres. Arrêtons de jouer les forteresses. Nous sommes là pour tendre la main, même à ceux qui nous détestent. C'est ça la victoire du Christ en nous. Nous pouvons aimer. Nous pouvons aimer, souffrir sans crainte, car la mort a été vaincue. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. Pourquoi ? Parce que Christ est vraiment ressuscité. Nous pouvons nous parler en vérité. Pourquoi ? Parce que Christ est vraiment ressuscité. Et notre caractère ou notre âge ne sont pas une excuse. J'en ai marre d'entendre des chrétiens qui disent « Oui, mais tu comprends, j'ai déjà 67 ans, c'est pas maintenant que je vais changer. » Mais bon sang, mais Christ, est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Alors notre âge et notre caractère, ou c'est ma nature, c'est pas une excuse. Ça, c'est parce que vous n'avez pas laissé le Christ entrer plus profondément en vous. C'est parce que vous ne croyez pas que Christ est vraiment ressuscité. Et ce n'est pas parce que vous le chantez dimanche matin que ça en devient plus vrai dans votre vie. Je refuse de croire que cette personne ne pourra jamais changer. Pourquoi ? Parce que Christ est vraiment ressuscité. Un jour, j'avais une personne qui me disait « Tu sais, pourquoi tu parles encore à cette personne ? Cette personne ne se convertira jamais. » Et j'ai répondu à cette personne, si tu penses qu'elle se convertira jamais, c'est que tu ne comprends pas le miracle de ta propre conversion. Tu ne comprends pas, ou peut-être que même tu n'es pas vraiment converti. Tu ne comprends pas les ténèbres qui ont été vaincues dans ta vie. Je refuse de croire que la mort, la peur et la souffrance soient ce qui doit guider mes pas. Je veux faire face à tout ça, sachant que Christ est vraiment ressuscité. Et Jésus nous appelle à être témoins de cette vie nouvelle. Comment ? Comment être témoin ? Je reviens au texte. C'est assez fascinant parce que les disciples d'Emmaüs étaient là et ils racontèrent aux disciples assemblés tout ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment Jésus s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain, et comme il disait cela, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. C'est fascinant parce que ce qui fait apparaître Jésus, c'est le témoignage des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs racontent leur rencontre avec le ressuscité, et Jésus apparaît au milieu d'eux. C'est notre témoignage qui fait apparaître le Christ en face de nos interlocuteurs. Mais pas n'importe quel témoignage. Juste avant, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus disparaît, dit « Est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait le sens des Écritures ?» Leur cœur brûlait quand ils vont voir les disciples. Leur cœur brûlait. Ils étaient brûlants de cette rencontre avec le Christ. Ils étaient brûlants, remplis des Écritures. Et nous sommes appelés à revenir aux Écritures. Nous sommes appelés à nous nourrir des Écritures. À les mâcher, à les remâcher continuellement. Alors oui, ce n'est pas du fast-food, comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on voudrait des écritures fast-food. Hein. Vous lisez, hop là, tac, 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 et puis c'est terminé. Non. Oui, c'est exigeant. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de l'investissement. Mais il en va de ce qui brûle en vous. Il en va de votre témoignage. Si vous ne vous nourrissez pas des écritures, vous ne pourrez pas brûler de la présence du Christ dans vos vies. Nous ne lisons pas les écritures pour nous informer, pour être plus savants. Parce que pour l'armée du salut, c'est raté, hein, si c'était ça. On ne fait pas ça pour être plus savant, pas pour être informé, mais pour être transformé. Les écritures doivent nous pénétrer de la vie du Christ. Pénétrer de cette vie nouvelle et brûler nos cœurs afin que notre témoignage fasse apparaître le Christ en face de nos contemporains. À eux après de choisir s'ils veulent voir un revenant ou s'ils veulent voir la victoire sur la mort. Vous savez, très souvent, dans cette histoire-là, on est focalisé sur la question, enfin, sur le fait que Jésus dit qu'il enverra une puissance d'en haut pour être ses témoins. Et c'est désolant de voir combien de chrétiens mettent de côté la question du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit n'est pas une option dans la vie du croyant. On ne peut pas être un vrai témoin du Christ si on n'a pas ce baptême de l'Esprit. Mais si l'Esprit vient d'en haut, il ne tombe pas n'importe où. Il tombe sur le Christ. Et donc, il tombe sur la vie du Christ en nous. Et sur cette nourriture, si vous ne vous nourrissez pas des Écritures, le baptême de l'Esprit sera une petite flamèche, un peu comme on gratte une allumette, mais rien d'autre, si vous ne la nourrissez pas. Parce que si vous nourrissez des Écritures, alors c'est comme mettre un bidon de kérosène sur cette allumette. Et là, attention. Alors, j'aimerais terminer ici, chères sœurs, chers frères, et je voudrais vous laisser cette réflexion. Nous sommes dans les semaines qui suivent la commémoration de la résurrection de Jésus. Mais de quoi sommes-nous témoins? Est-ce qu'on est témoin d'un tour de magie? Un peu comme les magiciens. Je ne sais pas si vous regardez ça. Moi, je suis très fan à la télé. J'aime bien regarder les tours de passe-passe et essayer de deviner comment ils ont fait, etc. Et alors, on se demande comment Jésus a fait. Est-ce qu'on témoigne d'une espèce de fantôme, de demi-fantôme, de zombie, une espèce de virus qui aurait touché Jésus, une espèce de corona de Palestine, un variant palestinien, voyez, qui aurait fait hop, ressortir Jésus de la tombe? Ou est-ce qu'on est en train de témoigner de l'événement qui a bouleversé l'histoire humaine? Et pas simplement l'histoire humaine, mais votre propre histoire. Et est-ce que, en fait, ce ne serait pas vous les zombies? Est-ce que ce ne serait pas vous les morts-vivants? Est-ce que vous, dans votre vie, vous pouvez dire « Oui, Christ vit en moi. » Et oui, je suis comme ces disciples d'Emmaüs. Quand j'ouvre les Écritures, mon cœur brûle. Brûle. Brûle si fait que, bien malgré moi, quand je parle, Christ apparaît à celui qui est en face de moi. Alors nous voici simplement face à cette question, mes chers amis. Est-ce que Christ est vraiment ressuscité pour vous ce matin? Et si ce n'est pas le cas, alors je vous invite, peut-être maintenant, ou si vous n'osez pas, alors à la fin du culte, allez voir quelqu'un, les anciens d'ici. Ou si vous êtes vraiment désespéré, venez me voir moi. Et je prierai pour vous. Parce que j'ai une conviction gigantesque. Jamais tu n'es trop loin de Dieu. Jamais, quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu penses, jamais tu n'es trop loin de Dieu. Et s'il a pu me sauver moi, alors je peux vous dire qu'il peut sauver n'importe qui, pour peu qu'on le laisse entrer et brûler nos âmes, chers amis. Je voudrais vous inviter à la prière pour conclure ce temps. Seigneur, toi tu nous connais. Tu nous connais bien mieux que nos familles, que nos voisins, que nos amis. et même bien mieux que nous-mêmes. Toi, tu sais ce qu'il y a en nous. Tu sais ce que nous essayons de cacher aux autres, à travers un masque, à travers une belle figure, Seigneur. Oh Seigneur, montre-nous ceci. Non pas pour que nous soyons accablés, mais pour voir où ta victoire veut jaillir, Seigneur. Et cette victoire, nous la voulons ce matin. Pour nous, peut-être ce matin, Seigneur, je prends conscience que je me dis vivant, mais pas vraiment. Que je dis que tu es ressuscité, mais ce n'est pas une réalité pour moi, dans ma vie ou dans mes relations aux autres. Peut-être que tu vois que la peur est ce qui guide mes pas ce matin. Mais je veux proclamer ce matin que tu es vraiment ressuscité. Et je demande que tu viennes me visiter. Oh Seigneur, viens visiter nos âmes ce matin. Peut-être, vois-tu, j'ai délaissé les Écritures. Tellement de choses à faire dans ma vie, tellement de responsabilités ou tellement de problèmes que je n'ai pas investi le temps et l'attention nécessaires à tes Écritures. Mais je veux ce matin que mon cœur brûle. Je veux me nourrir de toi, Seigneur. Je veux diminuer pour que toi, tu grandisses en moi. Je veux cette vie nouvelle, Seigneur. Je veux brûler. Je veux rayonner. Je veux que tu sois vraiment ressuscité. Je veux que quand je parle, Seigneur, autour de moi, tu puisses apparaître. Je veux que les gens te voient. Je veux transpirer l'amour bien malgré moi, bien malgré ma nature déchue. Je veux que les gens ne me voient pas moi et ne m'admirent surtout pas, mais puissent te voir toi, la victoire sur la mort. Seigneur, pardonne-nous quand parfois nous laissons la mort et la peur de la souffrance et de la mort, guider nos pas. Mais viens relever, viens brûler, viens rayonner, viens ouvrir les tombeaux. Tu veux souffler sur cette ville de Marguerite. Tu veux souffler sur cette ville de Nîmes. Tu veux souffler sur ce pays, Seigneur. Et nous voulons en être les témoins. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as choisis. Alors nous nous levons. Et bien malgré nous, nous voulons laisser ta victoire rayonner au travers de nous. Sois béni ce matin, Seigneur, pour ça. Au nom puissant de ton Fils. Amen.